Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler du départ de certains partenaires du Mali. Après la Suède, le Danemark annonce la fermeture de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso. Le gouvernement danois évoque comme principales raisons les coups d'État militaires ayant fortement limité les possibilités d'action dans la région du Sahel. Du côté de la Suède, on met en avant la détérioration de la situation sécuritaire dans ces pays, mais aussi la nécessité de redéfinir son aide au développement. Quel est l'apport de ces pays dans le développement des pays du Sahel, notamment le Mali? Que vaut cette fermeture d'ambassade? On en parle avec trois invités. Fatoumata Traoré, enseignante chercheure, Dr Abdoul Sogodogo, spécialiste en relations internationales, Dr Ahmadou Touré, spécialiste en sciences politiques. Je suis Mariam Maïga pour la modération de cette émission. Encore une fois, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Le ministre danois des Affaires étrangères a annoncé le lundi la fermeture de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, deux pays en transition. Copenhague évoque comme raison les coups d'État militaires dans ces deux pays. Écoutons la synthèse sur ce sujet avec Moussa Malé Sissoko.
Le Danemark justifie cette mesure par la réorientation stratégique de sa politique étrangère et le changement de l'ordre constitutionnel au Mali et au Burkina Faso. En raison des coups d'État militaires qui ont fortement limité les possibilités d'action dans la région du Sahel, les ambassades au Burkina et au Mali seront fermées, a expliqué la diplomatie danoise dans un communiqué. Toutefois, cette fermeture ne signifie pas un retrait du Danemark de ses engagements internationaux dans ces régions. Selon le communiqué. Après la fermeture, le ministre danois des Affaires étrangères ajoute que ces pays seront pris en charge par Copenhague et par un nouveau représentant spécial pour le Sahel et la région des Grands Lacs. Il rassure que le soutien aux populations du Mali et du Burkina Faso sera maintenu par le biais de l'aide humanitaire et d'un engagement continu en faveur du développement. Rappelons que l'engagement du Danemark au Mali comprend la diplomatie, l'appui à la société civile, aux jeunes entrepreneurs et l'adaptation au changement climatique. Le Danemark intervient également dans les domaines de l'aide humanitaire et du développement. Cette annonce de fermeture des ambassades survient quelques jours après la rupture diplomatique entre la Suède et le Mali.
Vous venez d'écouter tout à l'heure le papier synthèse sur le départ du Danemark du Mali. Quelle lecture faites-vous de plus en plus de ces départs des partenaires? Une question tour de table. Je commencerai par vous, Abdoul Sogodogo.
Merci. Je commence par dire bonsoir ou bonjour à toutes ces personnes qui nous écoutent sur la radio ou à la télé. C'est vrai, c'est une question d'une certaine façon qui peut être vue comme étant préoccupante ou inquiétante, mais si on s'inscrit dans la durée, dans la tradition, dans la pratique des relations internationales, c'est une pratique courante. Que les États, selon leurs intérêts, redéfinissent leur cadre diplomatique. Donc, ce n'est pas un cas isolé ou la première dans l'histoire de voir un pays fermer son ambassade dans un pays X pour le rouvrir dans un autre pays. Et donc, dans ce cas-là, si on est dans cette logique-là, on peut poser d'autres questions aussi. Le pourquoi maintenant, vous l'avez évoqué dans votre élément introductif, plusieurs arguments sont avancés parfois, d'autres sécuritaires, d'autres liés peut-être aux intérêts qui ne sont pas toujours annoncés comme il le faut. Mais je retiens que le Mali est à une phase où il est en train de se repenser lui-même, où il est en train de se redéfinir. Et ça va de soi que ses partenaires, ses partenariats aussi se redéfinissent. Et peut-être que l'action du Mali va nous amener dans les jours à venir à un paysage diplomatique renouvelé.
Alors, docteur Ahmadou Touré, je vous pose la même question. Sogodogo vient de dire que le Mali est en train de se penser, de se redéfinir. Est-ce que cela vaut un changement de partenariat également?
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Pour rappel, depuis l'avènement de la transition sous Hassim Goïta, il y a eu certaines grandes orientations du Mali, notamment les trois principes actés dans la nouvelle constitution. Et aussi, pour rappel, il y avait eu un pacte de partenariat militaire entre le Mali et la Russie en juin 2024. Donc tout ceci se situe dans cette logique. Donc ce pays, comme on l'avait dit au départ, les pays n'ont pas d'amis, mais les pays ont des intérêts. Donc ces pays, généralement, qui sont en train de fermer leur ambassade, s'inscriveraient dans la dynamique d'un soutien à l'Ukraine ou à l'Occident. Donc c'est-à-dire que pour eux, les orientations prises par le Mali ne correspondraient plus à leurs besoins. Maintenant, quel impact va avoir leur départ? Pour moi, c'est plutôt un non-événement parce que le cas du Mali spécifiquement, le gouvernement devrait s'assumer à aller au-delà. Aller au-delà veut dire quoi? Redéfinir notre carte diplomatique. Aller au-delà veut dire que le gouvernement devrait redéfinir notre carte diplomatique en fonction de nos pays amis. Donc, dans les relations diplomatiques, il n'y a pas d'amis, mais il y a que des intérêts. Donc, comme l'assiette était partie, le Darmak, je sais aussi qu'il y aura d'autres aussi qui vont partir. Donc, ça ne va pas s'arrêter ici. Donc, ils sont dans une logique où, dans leur entendement, ils pensaient que c'est l'aide au développement dont le Mali a besoin. Or, aujourd'hui, le Mali a besoin d'un soutien pour au moins passer cette étape nécessaire qu'on est en train de vivre.
Madame Traoré, est-ce que pour vous également, ce départ, c'est un non-événement ou c'est à considérer?
Merci beaucoup, Mariam. Bonjour ou bonsoir à tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Moi, je ne dirais pas que c'est un non-événement, parce qu'on en parle tout de suite, mais je dirais tout simplement que c'est une situation à laquelle on devrait s'attendre, avec déjà le départ de la Suède. Vous savez, le Danemark fait partie quand même des 5 pays scandinaves, dont la Suède aussi. Donc, cet ensemble aussi est dans un autre ensemble, l'OTAN, donc l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Sahara et particulièrement dans le Sahel, c'est qu'il y a vraiment, on va dire, les pays qui sont des BRICS d'un côté et puis les autres pays, on va dire, les pays occidentaux. Parce que l'OTAN, quand même, c'est 32 pays, donc dont les têtes de proue, c'est la France et puis les États-Unis. Et dans cette, on va dire, dans cette situation, on a vu que le Mali aussi a assumé le départ de la France. Et avec, on a vu que d'autres pays sont partis. Et quand on regarde aussi ce qui se passe ces dernières années, c'est que le Danemark devrait déployer ses troupes au Mali. Et le Mali a demandé à ce que ces troupes-là ne soient pas déployées dans le cadre de l'opération Takuba. Et tout cela ensemble fait qu'aujourd'hui, le Danemark ne veut plus être, on va dire, persona non grata au Mali, parce que finalement, il ne faut pas se faire chasser tout le temps, mais il fallait s'attendre à cette situation parce que, justement, il y a une solidarité qui se dessine entre ces différents pays qui sont dans des différents sous-ensembles. On parlera de l'Union européenne, de l'OTAN et des pays scandinaves. Et de l'autre côté aussi, on a ces pays dont la Russie, la Chine et d'autres grandes puissances qui sont en train de s'affronter. Et malheureusement, ils ont décidé de venir s'affronter sur le territoire sahélien.
Alors, une parenthèse, c'est vrai que le président Hassim Goïta a annoncé ce jour-ci en Chine. Vous l'avez dit dans vos propos, les ingrédients étaient déjà là quand on prend en compte la brouille entre le Mali et le Danemark concernant l'opération Barkhane, sa présence au sein de l'opération Takuba. Mais les Danois évoquent également le coup d'État, la transition dans ces deux pays. Mais ce n'est pas nouveau. Ça fait des années quand même que le Mali est dans cette situation.
C'est à ça que j'allais venir, parce que je me dis que les raisons qui ont été évoquées ne sont pas les vraies raisons du départ du Danemark. Parce que, comme l'a dit docteur tout à l'heure, les pays n'ont que des intérêts. Les pays n'ont pas d'amis. Et quand vous allez sur le site d'accueil de l'ambassade du Danemark, on dit carrément qu'on est au Mali pour nos intérêts, pour sauvegarder nos intérêts. Donc cela est une réalité. Et le Mali, c'est pour ça que je dis que le Mali devrait s'attendre à ça. Parce que quand on regarde ce qui se passe actuellement au Sahel, avec la création de la Confédération du Sahel, c'est trois pays ont décidé d'être ensemble. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le Danemark a décidé de fermer son ambassade ici au Mali et en même temps au Burkina. Donc, ce n'est pas fortuit. Et ça veut dire également que, quelque part, le coup d'État qui a été évoqué n'est pas vraiment la vraie raison, dans la mesure où le Danemark est présent dans d'autres pays qui sont venus par coup d'État. On en connaît beaucoup, hein, donc ils sont présents dans ces pays. Et ce coup d'État également ne peut pas être évoqué dans la mesure où ce coup d'État date quand même de 4 ans. Aujourd'hui, on est à la 4e année de transition et le Danemark était là. Justement. Donc, le coup d'État, ce n'est pas un fait nouveau. Donc, je pense que le point central, c'est justement ces questions d'intérêt. Aujourd'hui, je pense qu'il est important pour nos autorités eux-mêmes de définir leur propre carte diplomatique en se basant également sur leurs propres intérêts et en anticipant surtout. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons toujours là en train de subir les choses et en ce moment commencer à trouver des solutions. Ça, c'est une position, on va dire, une position attentiste, une position, on va dire, un peu, on n'est pas dans l'offensive. On est plutôt dans la réaction. Donc cela ne permet pas vraiment de jouer tout son rôle sur la scène internationale.
Docteur Sogodogo, à entendre Mme Fatoumata Traoré, le coup d'État n'est pas la vraie raison. Selon vous, pourquoi maintenant donc?
Vous savez, les relations entre les États sont très complexes. Et les critères, parce que parfois l'État... Dans son action, l'élément prédominant, c'est comment je préserve justement mes intérêts. Ces intérêts peuvent être immédiats ou lointains, parfois même difficiles à s'en apercevoir, difficiles de les percevoir de façon claire. Mais pourtant, ce sont ces intérêts qui guident l'action des États. Et l'intérêt lui-même est dynamique, en fait. L'intérêt bouge, ça évolue. Peut-être qu'à un moment donné, au début de la transition, le Danemark pensait peut-être pouvoir exercer une certaine influence, que ce soit vrai ou pas, que ce soit dans le domaine humanitaire, etc. Et à un moment donné, voilà, ce pays peut estimer que d'autres éléments sont en jeu et qui sont plus importants pour lui. Et en parlant d'éléments, je fais par exemple allusion au soutien annoncé et même assumé de l'Ukraine dans la crise malienne, parce qu'on a vu que des responsables sont sortis, et on dit l'ambassadeur, je crois, de l'Ukraine au Sénégal, et un haut responsable du service de renseignement militaire, qui dit que l'Ukraine a joué un rôle dans les activités survenues à Tizawatel. Et vous le savez, le Danemark, c'est tout comme la Suède, ce sont des pays très engagés dans ce conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Et qu'on le veuille ou pas, le Mali n'a pas une position de neutralité dans ce conflit-là. Parce que je me rappelle, au dernier sommet au niveau des Nations Unies, le Mali a carrément montré son soutien à la Russie dans ce conflit. Donc ça fait que, du coup, le Mali se trouve engagé dans un conflit indirectement avec ces pays qui ont une autre position. Et certains décident maintenant finalement de surseoir à leur activité au Mali pour mieux se positionner dans d'autres pays même voisins. Parce que pourquoi le Danemark n'était pas au Sénégal jusqu'au jour d'aujourd'hui? Pourquoi la Suède n'était pas au Sénégal? Ils avaient juste un bureau. C'est pour dire que finalement, comme on l'a dit Mme Samake, dans le jeu international, c'est-à-dire tous les éléments ne sont pas forcément dévoilés. Et c'est comme un jeu de paysans et de paysanteurs. Il y a des éléments dominants à certains moments donnés qui poussent à l'action. Et vous en avez certains éléments latents, peut-être qu'on peut contenir parfois. Et effectivement, il faut s'attendre, comme mes co-débatteurs l'ont dit, il faut s'attendre à ce que cette situation évolue. Et l'évolution n'est pas forcément négative ou positive, mais en fait, parce que, comme on l'a dit, la scène internationale, elle est ouverte. C'est comme vous allez voir, le Mali va nouer des relations diplomatiques avec certains pays dont il n'en avait pas avant, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre comme d'assez habituel, de normal dans la vie des États. Mais pour nous, individus, citoyens, c'est parfois des choses difficiles à vivre pour nous parce qu'il peut y avoir des intérêts personnels, ça je peux le reconnaître pour certains. Mais dans la vie d'une nation, il faut l'accepter. C'est comme quand on vit, on tombe parfois malade. Ça fait partie de la vie. Donc, dans la vie des nations, les ruptures de relations diplomatiques, voilà, c'est assez ordinaire. Il faut s'attendre à ça.
Alors, maintenant, docteur Sougoudou, excusez-moi, je vais vous interrompre un tout petit peu. C'est assez ordinaire, mais face à ce jeu de puzzle, comme vous aimez le dire, quelle doit être la posture du Mali? Quelle réponse les autorités maliennes doivent apporter à cela?
Moi, je pense qu'il faut, il faut s'inscrire dans une dynamique pas seulement réactive, mais il faut suffisamment se penser soi-même. Quels sont mes intérêts véritables, qu'on appelle parfois les intérêts vitaux, et avec qui je peux atteindre ces intérêts et avoir ce courage de s'afficher et aller véritablement vers ces intérêts-là. Donc il faut, en un mot, s'assumer véritablement et que cela soit connu et que cela soit dit. Quand c'est le cas, ça permet de ne pas perdre parfois du temps avec certains partenaires où on joue à un jeu de... où on va se louvoyer. Je pense que ce n'est pas utile pour un pays comme le nôtre qui a peu de... en tout cas, avec les moyens, les ressources limitées, nous devrons être très clairs dans nos choix diplomatiques, politiques, économiques, etc. On ne peut pas, par exemple, penser et positionner notre développement sur l'aide. Je ne connais pas un pays dans l'histoire de l'humanité qui se soit développé grâce à l'aide internationale au développement. Je pense que donc on ne peut pas privilégier la collaboration avec un pays X parce que ce pays X nous propose des montants importants en termes d'aide humanitaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'argent de X ou de Y. Mais il faut aller chercher cet argent-là où, avec un partenaire qui est véritablement engagé avec nous pour atteindre nos objectifs de sécurité, nos objectifs de développement économique, nos objectifs de développement en termes de santé, en termes de ça, etc. C'est de ça qu'il s'agit plutôt aujourd'hui.
Docteur Touré, je vous repose la même question. La Suède est partie, le Danemark vient de partir également. Quelle posture la transition doit apporter?
La posture de la transition, c'est-à-dire du gouvernement de la transition, c'est, comme je l'avais dit au départ, c'est de s'assumer. Parce qu'ils avaient pris une orientation. Donc l'orientation à travers les principes. Les trois principes. Si vous voyez un peu l'architecture, l'ambassade du Danemark était fermée au Mali comme le Burkina. Donc ça ramène en exergue la question de l'AES. Donc cela veut dire que l'AES, comme c'est une diplomatie commune, mais la question qu'on se pose, est-ce que le Niger, est-ce qu'il y a une ambassade au Niger? Donc c'est la question. Donc généralement, c'est le Mali et le Burkina. Donc c'est une nouvelle configuration de la carte diplomatique dans ces pays. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire au-delà de tout ça? C'est-à-dire, comme je l'avais dit, il faudrait que notre diplomatie soit plutôt une diplomatie qui défend nos intérêts. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une diplomatie de rupture, une diplomatie offensive. Et comme on a dit, faire de la politique, c'est se prévoir, interroger l'avenir. Donc, on peut aussi sauvegarder nos intérêts avec les pays amis, notamment, naturellement, les pays qui nous soutiennent, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Et aussi, il est malheureux aussi de constater que nous sommes des victimes de la guerre par procuration. Donc tout ceci est venu d'un soutien du Mali à l'Ukraine, du Mali à la Russie. Parce que comme le professeur l'avait dit au départ, toutes les résolutions condamnant la Russie, le Mali a voté non. Et toutes les résolutions condamnant le Mali, la Russie a voté non. Donc ça veut qu'il y a déjà un soutien diplomatique entre ces deux pays. Donc, si vous voyez un peu l'architecture...
Donc, on peut dire diplomatiquement, le Mali est victime de sa position.
Oui, parce que le Mali a déjà fait un choix. C'est-à-dire que le Mali a fait un choix, c'est-à-dire la redéfinition de sa carte diplomatique qui tourne autour de la Russie. Parce que depuis qu'on on a eu la rupture diplomatique ou cette relation avec la France, nous nous sommes alignés avec la politique russe. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Que nos autorités peuvent aller au-delà. C'est-à-dire, moi, je conseillerais plutôt de ne pas aller dans une rupture avec les autres pays. Par exemple, même si nous voyons l'Algérie, qui est notre pays, qui est notre voisin, la Mauritanie, on peut développer avec ces pays certains intérêts, notamment comment faire retourner nos réfugiés qui sont là-bas, à la Mauritanie. C'est-à-dire, en fonction de nos intérêts, on peut définir notre carte diplomatique. En ne pas répondant coup par coup, si le Danemark parle. Il ne faut pas que le Mali aussi sorte pour dire que nous allons fermer notre ambassade. Et pour finir, il y a un exemple de la Russie et des États-Unis. Malgré les bruits, tout le monde sait que c'est les États-Unis qui financent l'Ukraine. et la Russie a son ambassade aux États-Unis et c'est réciproque. Donc cela veut dire qu'au-delà des querelles d'intérêts, on peut sauvegarder les relations diplomatiques.
Madame Samake Fatoumata, est-ce qu'on doit s'attendre encore à d'autres départs?
Oui, bien évidemment. Il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à d'autres actions qui vont se poser dans les jours, voire les mois à venir. Parce que je crois que c'est une dynamique qui a été enclenchée depuis un certain moment. On a vu qu'avec le départ de la MINUSMA, certains pays ont déjà décidé de ne pas pouvoir continuer à rester au Mali. Par la suite, on a vu également avec la création de la Confédération de l'AES, certains pays ont décidé aussi de prendre position. Après, quand il y a eu l'attaque de Tinzawaten où l'Ukraine a fait l'apologie du terrorisme aussi, certains pays se sont distingués en parlant ouvertement ou bien en déclinant ouvertement leur position. Donc cela veut dire qu'on est dans une dynamique déjà enclenchée. C'est pour ça que le Mali doit avoir une diplomatie, on va dire, prospective où on va pouvoir anticiper les choses en se disant c'est une roue qui tourne et on doit forcément avoir une position claire, défendre nos intérêts en premier, savoir avec qui nous composons et ne pas s'attendre à ce que tout le monde soit de notre côté. Et maintenant, on est plus que jamais confronté à une situation assez claire, c'est que nous devons apprendre à composer avec les départs, avec les aides qui vont être coupées, avec des coopérations, mais avec d'autres. Il faut aussi s'attendre à des choses positives, hein. Les relations que nous allons tisser avec nos nouveaux partenaires. C'est pour ça que dans ces ruptures, quand j'entends souvent sur les réseaux sociaux, le Mali est isolé, le Mali est seul, je me dis, mais un pays ne peut jamais être seul. Parce que vous êtes obligé de nouer des partenariats. Maintenant, être seul par rapport à quoi? Peut-être c'est là la grande question. Donc, de mon point de vue, il faut vraiment s'attendre à d'autres événements qui vont suivre. Et le Mali doit se préparer à cela. C'est le plus important.
Alors, quel est donc l'apport de ces pays-là dans le développement au Mali?
Bon, l'apport de ces pays dans le développement, je pense que pratiquement tout, en nouant des accords avec des pays en général, c'est toujours pour le développement, d'une manière ou d'une autre. Et en général, les accords de coopération sont faits de manière à ce que les deux pays sortent gagnant-gagnant. Sauf que dans nos pays, on a vu que quand même la Suède le Danemark est au Mali depuis les années 90, je pense, hein, et cette coopération a toujours existé. Mais n'empêche que nous sommes toujours dans notre situation de pauvreté. Cela me ramène à ce que Dr Sogodogo vient de dire, c'est que l'aide au développement n'a jamais aidé un pays. Et en même temps, on était dans une autre situation où on a bradé nos ressources naturelles en se disant, il ne faut pas qu'on perde nos partenaires. Il faut tout faire pour avoir des offres juteuses, il faut avoir un code minier, par exemple, qui soit attractif. Je pense que toutes ces politiques ne nous ont mené qu'à notre propre perte, parce qu'aujourd'hui, le résultat est connu de tout le monde. Et de ce point de vue, je crois qu'aujourd'hui, nous devrions avoir notre propre trajectoire, notre propre ligne de conduite pour mener ce pays-là inexorablement vers le développement. Et pour ça, nous devrions être fermes par rapport à nos accords de coopération, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'accords de coopération qui se font sur certaines thématiques, mais dans le fond, ce n'est pas ce qui se fait sur le terrain. On peut venir, par exemple, pour dire on va défendre les droits humains, mais vous allez voir, les activités qui sont menées sur le terrain font tout sauf la défense des droits humains. Est-ce qu'il y a, on va dire, plus de défense des droits humains que, par exemple, les personnes, toutes ces personnes-là qui sont mortes, qui sont blessées à Tinzawaten? Mais est-ce qu'on a entendu un communiqué par rapport à ces questions-là en se disant, voilà, le Mali est victime du terrorisme, alors nous devrons au moins apporter notre soutien, ne serait-ce que par écrit ou verbalement, pour quand même dénoncer le terrorisme. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait par beaucoup de pays. Et on a vu que tous ces pays qui sont alignés sont là, ne veulent pas affiché une position par rapport à ça. Et l'Ukraine n'a pas été condamnée par une majorité de pays. Donc cela veut dire que les questions des droits de l'homme, c'est une question, on va dire, à double vitesse, où dans certaines situations, on essaye d'amplifier les choses en se disant l'État ne joue pas son rôle, les populations sont en train de mourir, il y a trop de déplacés, l'État est incapable, l'armée n'est pas ceci, cela. Mais de l'autre côté aussi, quand il y a des problèmes, personne n'est là pour prendre, en tout cas, la voie qui nous mène vers la résolution de ce problème. C'est ce qui se passe au Mali. Et cela doit nous interpeller. Cela voudrait dire que nous devrions nous mettre en tête désormais que personne ne viendra développer le Mali à notre place. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Et tout ce qui va se dessiner dans le futur dépendra des actions bonnes ou mauvaises ou des décisions bonnes ou mauvaises que nous allons d'ores et déjà prendre aujourd'hui.
Monsieur Touré, je me tourne vers vous. Madame Samake vient de dire tout à l'heure, on a vu la position, la déclaration de l'Ukraine concernant le combat qui s'est déroulé à Tinzawatène entre l'armée malienne et les groupes djihadistes, la position de l'Ukraine qui n'a pas été condamnée nullement. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le terme que les gens ont l'habitude d'employer ces temps-ci, guerre par procuration qui se joue au Mali ici, pouvez-vous nous détailler cette partie-là un tout petit peu?
Tout à fait. C'était la bataille de Tinzawatène, parce que Tinzawatène, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il n'y a pas eu d'affrontement direct, mais c'était plutôt deux embuscades par des kamikazes, deux voitures plus des roquettes. Donc, il n'y a pas eu d'affrontement direct entre nos militaires et les CSP et les groupes djihadistes. Donc, ce qu'il faudrait retenir ici, que c'est dans le contexte de Tinzawatène que nous avons su en réalité que le Mali s'est engagé dans une guerre par procuration. Par procuration veut dire quoi? Il y a ces trois personnes, donc deux sont les acteurs, le troisième joue la main invisible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que l'Ukraine vienne directement intervenir, l'Ukraine a intervenu à travers les groupes rebelles ou les terroristes. Donc qu'est-ce qu'il faudrait retenir aussi? C'est qu'à Tinzawatène, il y a eu la coalition Génim, CSP, Al-Qaïda, plus nos FAMA et leurs partenaires russes. Donc, par procuration, la bataille de Tinzawatène était pour moi une bataille de précision. Ça nous a montré au moins que on s'est engagé dans une guerre par procuration, par des puissances internationales. Au lieu d'aller attaquer la Russie sur leur territoire, ils viennent attaquer la Russie au Mali. Donc, si vous avez vu un peu l'architecture des combats, comme je l'avais dit, c'est des kamikazes, des décès, il y avait plus de Russes qui était décédé dans l'embuscade, plus que des risques qui étaient des militaires. Donc l'Ukraine aussi directement a reconnu que l'Ukraine a fourni certaines informations, notamment le renseignement militaire, aux rebelles CSP et les Génim. Mais au-delà, qu'est-ce qu'on peut retenir aussi? C'est qu'après vérification, le Génim avait fait un communiqué condamnant le CSPD pour dire que c'est eux qui ont combattu l'armée malienne à travers des kamikazes. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir sur ce point? L'Ukraine a déjà établi le lien entre eux et le CSPD. Donc, si vous voyez un peu qui était le premier soutien du CSPD, c'était la France. Donc, on peut dire que c'est la France. Et la question que nous nous posons,
on peut dire que c'est la France, comment cette partie-là?
Oui, c'est ce que j'ai dit. Mm-hmm. C'est la France parce que quand vous voyez l'architecture de Tinzawatène, il y a deux Tinzawatène, Tinzawatène du Mali, Tinzawatène de l'Algérie. Entre les deux, il n'y a que 9 km entre les deux Tinzawatène. Donc la frontière algérienne, c'est plus de 1300 et quelques kilomètres. Donc est-ce que l'Ukraine peut aussi fournir des informations au CSPD sans passer par nos pays voisins? Donc la question se pose. Donc cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a ici la question de la sincérité de nos pays voisins, notamment l'Algérie et la Mauritanie dans ça. Et la guerre pour procuration ne fait que commencer. Je pourrais même inscrire le départ des Danois dans ce cadre. C'est-à-dire que la guerre ne suffit pas d'aller directement utiliser des armes, mais c'est des moyens politiques, des moyens de pression. À cause de l'aide au développement ou le financement de certaines ONG au Mali, les Danois disent qu'ils vont aller. Donc c'est juste pour dire que l'aide au développement n'a jamais développé un pays. Donc, pour dire que c'est la France, c'est une politique de solidarité entre les membres de l'OTAN, notamment la France et ses pays et ses pays amis.
Alors, la guerre de procuration vient de commencer, l'aide au développement n'a jamais développé, et pourtant, ces pays qui viennent de partir également soutiennent des projets dans le pays. Quel pourrait être donc l'impact de cette décision sur ces projets en cours?
Oui, à vue d'eux, ça pourrait être considéré comme une situation de pessimisme et d'inquiétude pour ceux qui ont ces projets en cours.
Et au fond?
Au fond, moi, j'ai beaucoup apprécié leur départ. Parce qu'au moins, ça va nous permettre, au-delà des départs, au-delà des ruptures que nous connaissons et nous allons réaliser, de telle sorte que les vrais amis du Mali seront connus. Et en fonction des vrais amis, nous allons définir notre politique. Et pour dire, ces pays qui décident d'aller, est-ce qu'en réalité, ils partent pour ce qu'ils ont dit? Non. Ils partent uniquement parce que le Mali a une orientation politique vers la Russie. C'est ce problème qui se pose. Le Mali a un accord de partenariat militaire avec la Russie que le Mali a dénoncé l'accord avec la France. Le Mali a dénoncé le porte-plume de la France aux Nations Unies. Donc nous sommes dans une guerre par procuration, qu'on le veuille ou pas, parce que ça va nous permettre, ça ne va pas passer facilement, mais ça va passer. Parce que les projets en cours seront arrêtés. Ça pourrait aussi augmenter le taux de chômage. Un exemple, ceux qui étaient avec l'aménagement, G5 Sahel, les ONG au nord. Donc ça veut dire que le chômage continue, mais l'État devrait s'assumer. C'est l'orientation politique qui nous a amené tout ça. Donc l'État devrait aussi donner des perspectives pour remplacer ces aides au développement en créant plus d'emplois, en créant plus de projets de soutien.
Et ces perspectives-là que l'État doit donner doivent se faire dans quel délai
approximativement? On dit situation urgente, mesure exceptionnelle. Donc l'État, comme on dit, nous sommes en guerre. Il y a eu les inondations, l'état de catastrophe nationale. Bon, on attend, parce qu'il y a eu de juillet 2023 à juillet 2024, ça fait une année, que les jeunes se sont inscrits au ministère de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, plus de 600 et quelques jeunes pour compte de l'aménagement, des ONG qui ont eu le départ. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de solution. Mais nous osons espérer que l'État va réagir.
Nous osons espérer que l'État va réagir, mais il s'agit quand même des emplois et cela urgent. Concrètement, Dr Sougoudougou, quel est l'impact de ces départs sur les projets en cours?
Merci. Vous savez, les projets de développement social, le développement social, parfois, ça nécessite de la durée pour que ces projets puissent avoir un impact. Par exemple, si vous voulez accompagner une collectivité en termes d'éducation, si vous devez construire des écoles, mettre en place des enseignants, il faut un certain nombre d'années pour que ce travail-là puisse avoir un véritable impact sur le milieu social. Ça peut être pareil pour le soutien, pour la santé, etc. Donc, ces ruptures de relations ont la fâcheuse conséquence, par exemple, d'interrompre ces projets-là en cours d'évolution. Ça, on ne peut pas le nier, il faut le reconnaître. Mais en même temps, est-ce qu'un pays aussi peut baser son développement sur les ONG et les associations? C'est difficile à dire, parce que ça veut dire que dans ce cas, le pays manquerait de politique publique de développement. C'est-à-dire l'action des organisations internationales telles que les ONG à dimension internationale, l'action des fonds internationaux qui accompagnent un État, ne doit pas être le premier pilier du développement. Ça ne doit pas être le premier élément de la stratégie de développement d'un pays. Donc, ça veut dire qu'ils viennent en appoint, c'est des accompagnements ciblés, parce que les pays, les organisations décident d'intervenir dans telle zone où ils estiment que leur contribution serait plus utile pour les populations. Et comme vous le voyez, l'action est directement destinée généralement dans le monde des ONG aux populations. l'aide n'est pas versée à l'État pour que l'État l'oriente et le guide comme il le souhaiterait, mais c'est un travail direct avec les populations. Dans une certaine mesure même, ça devient parfois un facteur de délégitimation de l'État et une source de légitimation de l'acteur international parfois qui interviennent, auxquels les populations se reconnaissent et ont même tendance parfois à s'identifier sur certains plans. Donc, ça veut dire que il faut penser rapidement les palliatifs à ces projets qui sont d'intérêt peut-être national pour que ce soit l'État ou d'autres partenaires puissent voir comment je fais pour accompagner des initiatives déjà prises dans le cadre d'un projet suisse ou d'un projet danois, etc. Moi, par exemple, je suis dans le milieu universitaire. Je sais, par exemple, que les Suisses, ils travaillent beaucoup avec mes collègues de l'IHS. Donc ça, c'est quand même de longues années de collaboration. Ils font un travail extraordinaire en termes de recherche, de développement, voilà, sur les sciences sociales. Bon, ça veut dire peut-être, je ne sais pas si ces fonds-là vont être touchés, parce que faisons aussi attention, la rupture des relations diplomatiques, c'est-à-dire la fermeture d'une ambassade, ne veut pas aussi dire la suppression de toute relation entre ces pays.
Qu'on ne doit pas confondre. À toute relation.
Voilà, je ne pense pas que ça met forcément fin à toute relation. Parce que cette rupture va amener aussi l'État, les deux États et les acteurs. Parce que l'État n'est pas une entité pour soi. L'État, chaque pays est constitué d'un groupe d'acteurs. Ce sont ces acteurs-là, voilà, des universitaires, les ONG, les associations, qui sont impactés par cette rupture de relation, qui vont influencer chacun différemment les différents États pour leur dire, voilà, peut-être ce qu'il faut faire. Je me rappelle encore, quand il y a eu la suppression de visa entre le Mali et la France, au départ, ça concernait tous les secteurs. Mais progressivement, on a vu qu'on a commencé à donner les visas aux artistes, au le monde de la culture, et aux étudiants, aux chercheurs, etc. Donc, parce que par la critique, et c'est ça le cœur même de la démocratie, en fait, des acteurs sur des intérêts spécifiques s'organisent et tentent de défendre ces intérêts et influencent par la même occasion le comportement des acteurs dominants qui sont les États. Donc, vous voyez, les États sont façonnés par ces acteurs-là. Donc, ne minimisons pas le rôle des acteurs qui peuvent amener les États à revoir et à revisiter et peut-être pousser les États à redéfinir peut-être de nouveaux cadres de coopération. Donc, il se peut que certains fonds vont rester. Voilà, c'est vrai que les États vont avoir leur mot à dire en termes d'appréciation, mais je ne doute pas de l'influence par exemple des acteurs de la société civile à véritablement conseiller aux États ce qu'il y a lieu de faire. Et je pense que quand un pays fait le choix d'engager l'argent de son contribuable dans un pays X pour un objectif donné, il faut avoir le courage d'aller au bout aussi. Voilà. Quand vous dites que je prends l'argent de mon pays pour aider un pays, par exemple, à améliorer sa situation sécuritaire ou l'éducation ou la santé, voilà, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, voilà, j'aurais du mal à justifier à mon contribuable que j'ai, voilà, en cours de chemin, arrêté cet investissement et que l'argent aurait été jeté par la porte. Je ne pense pas qu'un État, voilà, puisse s'inscrire dans cette logique-là. Donc peut-être que je reste un peu optimiste et dire que voilà, je disais que le jeu international est un jeu très, très, très complexe. Très complexe. Peut-être qu'il y a le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui est en train de devenir une sorte de maillon, de tournoi qui est en train d'aspirer tout le jeu, tout ce qui s'est fait dans cet environnement-là. Et peut-être qu'il faut voir que nous sommes en train de vivre un effet de ce conflit-là, mais que ce conflit ne va pas pouvoir tout définir et que les États sont des acteurs intelligents. Ils pensent suffisamment à intérêt, mais ils ne pensent pas qu'à intérêt économique. Il y a des enjeux historiques, sociaux aussi, qui vont entrer en ligne de compte. Et la politique internationale n'est pas un jeu de hasard comme beaucoup peuvent le penser. C'est un jeu aussi qui a son propre moral.
Alors, le jeu a son propre moral, c'est pas du hasard. Madame Traoré, quelle doit ou devrait être donc la conduite de l'État pour les personnes ou encore les initiatives qui sont impactées ou seraient impactées par ces départs de partenaires?
Oui, effectivement, les initiatives seraient impactées, les personnes aussi, parce que avec tous ces départs, ce qui est sûr, il y a certaines personnes qui vivent de cette coopération. Mais je pense qu'il faut faire une distinction entre c'est-à-dire ce qu'on recherche pour la survie et ce qui développe réellement. Parce qu'en réalité, la plupart de l'aide au développement est injectée sur des causes humanitaires. C'est-à-dire que les personnes assurent leur survie à travers des salaires, à travers des petites actions sporadiques qui, par-ci et par-là, qui permettent peut-être d'améliorer une ou deux jours, trois jours, quelques semaines, la vie des individus. Mais souvent, ce n'est jamais sur le long terme. Et l'idée même de projet ou de programme montre à suffisance qu'effectivement, on n'est pas là pour toujours. Et je pense que c'est ce qui devrait inspirer. Pour moi, il était temps pour notre pays de quitter sous perfusion. Parce qu'avec ce que nous avions par rapport à toutes ces crises répétitives au cours des années, la situation des personnes continuait à se détériorer. Et en fin de compte, on s'est retrouvé dans une spirale où autant l'aide au développement s'augmente, autant la situation devient beaucoup plus difficile pour la population lambda. Donc, à un moment donné, il va falloir que nous assumons, comme l'ont dit les autres co-débatteurs, c'est-à-dire que nous devrions être dans une logique où nous devrions prendre en main notre propre développement. Et cela veut dire que si nous prenons des décisions aussi importantes, aussi cruciales, avant de les prendre, normalement, on devrait pouvoir analyser quelles pourraient être les conséquences sur nos populations civiles. Parce que quand on regarde un peu les trois principes qui ont été édictés dans la Constitution, on a le principe de défense de l'intérêt des populations, des citoyens. Et l'intérêt des citoyens, ce n'est pas autre chose. Quand il y a des situations pareilles, ton salaire doit être éventuellement garanti, c'est-à-dire ta survie. Et l'État devrait créer les conditions d'une meilleure perspective pour ces personnes-là qui seront impactées négativement par ces postures. Bon, il y a autre chose également, c'est-à-dire qu'on doit avoir aussi d'autres façons de faire qui permettront aussi d'anticiper sur ce genre de situation, parce qu'on sait que ça va continuer dans le temps. Et les perspectives de développement doivent être assumées par les autorités en premier, et les ONG, les organisations internationales ne viennent qu'en appoint pour permettre à ce que l'État puisse jouer pleinement son rôle. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'en termes de perspective de développement, nous devrions faire plus. Aujourd'hui, nous devrions attacher nos ceintures pour que tout aille pour le mieux pour les populations maliennes.
On me fait savoir qu'il reste que trois petites minutes pour clore cette émission. Docteur Touré, je pense que ce n'est pas à exclure. Et si éventuellement ces partenaires décident de revenir,
bon,
sous quelles conditions?
Bon, ils peuvent revenir, mais pas tout de suite. Parce que connaissant notre gouvernement, parce que c'est comme on fait un coup, le gouvernement va payer. Pas tout de suite. Ils ont décidé d'aller, ils vont partir. Et ils peuvent revenir sous les conditions qui seront édictées par le gouvernement. Concernant le financement des ONG, j'allais ajouter un point. Pour dire généralement, le financement du terrorisme et du banditisme au Nord passe par certaines ONG internationales. Donc c'est même la politique du gouvernement. Et à un moment donné, le gouvernement est en train d'assainir le milieu des ONG, d'une façon générale. Parce qu'il y a certains financements qui sont destinés à la population, mais ces financements n'arrivent jamais. Donc c'est pour ça que nous persistons à dire que l'aide au développement ne développe pas. Mais l'aide au développement pourrait être des sources de financement du terrorisme.
Docteur Sogodogo, est-ce à dire qu'il faut craindre de nouvelles tensions diplomatiques à l'heure où vont les choses?
Non, je ne pense pas forcément. Je ne pense pas forcément.
On va vers l'apaisement maintenant.
Non, on va vers l'apaisement parce que vous voyez, ça ne s'est pas fait de façon violente comme ce que ça a été le cas au début des années 2022. Vous voyez, le Maroc et le Mali, je ne vous apprends pas, vous êtes de Tombouctou, entretiennent des relations historiques incroyables. Mais n'empêche, lorsque le Mali a voté en 1984 pour la reconnaissance du Polisario, le Mali et le Maroc ont connu des ruptures de relations diplomatiques. Ce n'est qu'en 1994, avec Agamani, que le Mali a rouvert son ambassade au Maroc. Mais ça n'a pas empêché les peuples maliens et marocains de continuer à vivre des relations extraordinaire.
Merci beaucoup, docteur Abdoul Sogodogo, et sous vos mots que pour en faire cette émission, vous l'aurez compris, nos invités quand même sont d'accord que l'aide au développement ne développe pas, que le toit doit plutôt créer des conditions idoines pour aider les personnes impactées par ces départs de partenaires et encore créer également des conditions pour anticiper d'autres départs de partenaires. Grand merci à nos invités, Madame Samaki Fatoumata Traoré, enseignante chercheure, Ahmadou Touré et également Dr Abdoul Sogodogo. Cette émission a été réalisée par Imirana Kiloumaïga. À la régie son et vidéo, il y avait Seydou Daou et Nuhum Djiré. À la modération, Mariam Maïga. Grand merci à vous et à la prochaine.